va faire la session en inverse de ce qu'on avait prévu, et Agnès, du coup. Donc, on est ravis d'accueillir de Londres Agnès Rocamora. Son titre en Angleterre, et je ne sais pas comment le traduire en français, mais Reader in Social and Cultural Studies at the London College of Fashion. Professeur en français.
Il n'y a pas d'équipe. Ouais, c'est en américain, c'est Associate Professor, mais ouais. En français, je ne sais même pas ce que c'est.
Non, ouais.
Je ne sais pas. Bon. C'est pas grave.
Et, deux choses que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien vous présenter. Bon, bref. Agnès a sorti un excellent livre, coédité un excellent livre qui s'appelle Thinking Through Fashion, A Guide to Key Theorists, qui est vraiment excellent. Donc, pour nous tous qui utilisons Bourdieu ou Barthes pour faire genre qu'on a un passif intellectuel, mais que vraiment on ne sait pas pourquoi on l'utilise, mais on sait que ça fait bien, mais on comprend pas, ou juste on fait pour lisez ce livre, lisez-le, ayez-le à côté de vous pendant que vous l'écrivez, si vous utilisez de la théorie et si vous réfléchissez, si vous pensez à la théorie en faisant la mode. Ce livre, Thinking Through Fashion, qui est sorti l'année dernière, je pense, il y a 2 ans.
Il y a un an. Ouais. Un an, il y a quelque chose.
Et Agnès aussi est co-founder et co-editor du International Journal of Fashion Studies. On a un peu parlé au début. Et pareil, si vous allez sur Internet, l'introduction du premier volume qu'Agnès a co-écrit est une excellente présentation d'un peu état des lieux de Fashion Studies aujourd'hui et pourquoi est-ce que il faut peut-être repenser la discipline, surtout en fonction des langues et de la traduction et de Fashion Studies dans les cultures différentes. Donc, les gens qui travaillent sur la mode en Chine ou au Brésil vont peut-être avoir un regard différent. Et comment est-ce qu'on arrive à publier ce genre d'article dans un journal académique? Donc c'est un état des lieux qui s'interroge sur ce que c'est qu'un journal académique de mode, sur ce que c'est que des disciplines différentes de l'histoire de la mode, et ce que c'est un peu que le Fashion Studies aujourd'hui. Et c'est vraiment aussi, c'est un article que un must read. Voilà.
Merci.
On est ravis de te voir.
Merci, je suis ravie d'être ici. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler des fashion studies en français, donc excusez-moi si je mélange les mots. Et en fait, donc, bien que le sujet, c'est... je sais que c'était les French fashion studies, mais donc je vais parler des fashion studies, donc pas la France en quelque sorte. Parce que venant, étant basée dans une université... vous m'entendez ? Étant basée dans une université anglaise, où beaucoup de gens sont là-bas et qui étaient à la base, et je dirais beaucoup, il y a Valerie Steele qui est là aussi, et je reviens sur elle et son travail tout à l'heure, qui ont été vraiment clés pour la construction de ce qu'on peut appeler le champ des fashion studies. Donc là, je deviens très bourdieuienne sur vous, je reviendrai là-dessus, mais je me dis qu'il serait toujours possible de faire une étude bourdieuienne de la construction du champ des fashion studies. Donc je me suis dit que je vais, en 20 minutes, 25 minutes, vous faire une espèce d'aperçu de ce que l'on entend par les fashion studies, et qui est vrai, c'est plutôt ce qu'on pourrait dire du côté anglo-saxon. Donc Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, de quelque sorte. Mais évidemment, c'est 20 minutes, je vais oublier, je vais passer sous silence beaucoup de choses, donc excusez-moi. Et si à tout moment vous pensez que je fais un énorme oubli, levez la main et ajoutez. Mais voilà, je vais essayer de faire un peu de cette vision panoramique pour définir un peu ce que l'on entend et ce qui devient de plus en plus, effectivement, et encore une fois, légitimé et consolidé comme un champ d'études qui s'appelle les Fashion Studies. Et donc, je vais couvrir 4 aspects. Je n'ai pas mis bizarrement l'aspect théorie, mais on peut revenir là-dessus après pendant la discussion. Mais ce que les Fashion Studies comprend comme discipline, les objets d'études, les approches qui ont dominé, prédominé, la méthodologie, donc les utilisations de quelles méthodes de recherche, et les institutions. Donc en quelque sorte, là, se dessine une étude bourdieuéenne, hein, je ne sais pas qui est familier avec le travail de Bourdieu, mais de la légitimation, en gros, peut-être la formation du champ des fashion studies. Alors, par fashion studies, alors évidemment, c'est toujours très difficile de définir ce que sont les fashion studies, notamment parce que c'est peut-être un champ qui emprunte à énormément de disciplines qui, elles, sont plus ou moins, peut-être plus en tout cas par rapport aux fashion studies établies. Et je pense souvent d'ailleurs, quand les fashion studies, quand le discours sur l'objet des fashion studies, etc., leur légitimation, leur approche, je pense qu'il y a un espèce de parallèle sur ce qui s'est passé avec la naissance et la légitimation des cultural studies aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en parallèle. Donc les disciplines des fashion studies, en tout cas telles que je les entends, telles que mes collègues et moi qui avons une revue universitaire les pensons, viennent dans le domaine des humanities. Humanité, j'avais pas l'impression qu'on dit ça très bien en français aussi. Donc, sciences sociales et humaines, voilà. Donc les sciences sociales et humaines. Et en fait, encore une fois, en pensant à la série d'articles, d'approches qui ont été publiées dans Fashion Theory, je reviens là-dessus dans quelques minutes, dans la revue que je publie, ou en livre, hein, il y a maintenant une production énorme de fashion studies. C'est vraiment énorme. Et qui, en aparté, est toujours... Je sais que quand j'ai déménagé au Royaume-Uni il y a 20 ans, j'ai commencé mon doctorat en sociologie sur la mode. En sociologie, l'objet d'étude était la mode. Les gens étaient toujours étonnés qu'en France, il n'y a pas de fashion studies, il n'y a pas l'approche cultural studies de la mode. C'est... Le genre de recherche que je faisais à l'époque, que mes collègues faisaient, qu'ils font encore, ça se passait pas vraiment en France. Et ça commence, grâce à des personnes, les personnes qui sont à ma gauche et d'autres, à arriver. Il était temps, hein, donc merci. Parce qu'on peut dire quand même que de ce côté-là, la France est restée un peu coincée. Je retrouve des mots français comme ça, c'est très pratique. Hein. quant à l'ouverture et les possibilités d'approche universitaire de la mode. Et ici, la mode, vraiment au sens très général, hein, très global, parce que c'est vraiment, et c'est ce qui définit aussi peut-être les fashion studies, c'est que c'est pas simplement l'étude du vêtement, mais c'est la production, la consommation, etc. Je reviens là-dessus dans quelques minutes. Donc, en gros, fashion studies, ça veut dire, c'est la sociologie, c'est les cultural studies, c'est l'histoire de l'art notamment, hein, qui a vraiment été très importante pour la genèse, la naissance des fashion studies, ethnographie, anthropologie, cultural geography. Là aussi, j'ai essayé de voir géographie culturelle, mais ça n'avait pas l'air de marcher très bien. Ok, donc géographie culturelle, urban geography, philosophie, et puis psychologie. Psychologie, il n'y a pas énormément de choses en ce moment, mais il semblerait qu'il y a un petit noyau je ne sais pas si c'est l'expérience que vous avez dans Fashion Theory, mais de gens qui commencent à avoir une approche par l'intermédiaire de la psychologie du champ de la mode, notamment par exemple où je suis basée à Londres, au London College of Fashion. Il y a maintenant un master's, MA, de psychologie de la mode, qui est très quantitativiste, etc. Mais bon, il y a quelques productions, notamment que nous avons publiées dans la revue que je dirige. Donc je trouve que ça, c'est aussi une chose positive et encourageante. Donc voilà, en gros, je dirais ça. Après, il y a des approches critical marketing ou marketing qui peuvent des fois se nourrir là-dessus. Curation aussi, donc c'est souple, hein, il y a beaucoup peut-être de disciplines qui ne sont pas là, mais peut-être les disciplines corps de fashion studies, je dirais, peut-être naviguent autour de ces champs d'études. Et donc, il y a évidemment des textes fondateurs. Hein, comme toujours, j'imagine, avec l'histoire, il est toujours possible de retrouver un texte fondateur avant. Et c'est vrai, là, je n'ai pas inclus, en fait, dans l'image que je vais vous présenter, en fait, des textes de façon intéressante, je trouvais peut-être bizarrement ou peut-être logiquement, je ne sais pas, des textes de, d'auteurs français, hein, Barthes notamment, a été très, très influent sur les fashion studies. Mais en fait, depuis Barthes, après, il y a eu Lipovetsky, son empire de la mode. Michel Perrault, je travaille en histoire, évidemment, là, a été aussi très important. Mais ça n'a pas lancé quelque chose. Hein. Il n'y a pas eu une suite plus systématique. Hein. Maintenant, je sais qu'il y a des choses qui se passent sur le fashion studies. Donc, excusez-moi, je les ai pas mis là. Je m'en tiens aux auteurs anglo-saxons. Hein. C'est une très très vaste typologie. Et encore une fois aussi, il y a le problème, donc ça c'est des auteurs un peu classiques, hein, Dick Ebditch, qui je sais a été traduit il n'y a pas longtemps, dont le texte sur les sous-cultures a été traduit il y a quelques années.
Ça c'est une question intéressante, on sait que beaucoup de ces livres n'ont jamais été traduits en français.
Ouais.
Et c'est ce que vous dites
pas à
pas. Ah oui, c'est ce que vous dites dans votre introduction de nouvelle édition. Il n'a pas été.
Ah oui, mais pas
fashion,
non.
Ouais.
Deux autres.
Voilà, c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc le livre de Valérie qui est là, elle est là. Hein. et Dick Ebditch, des petites anecdotes, je vais regarder là. Mais par exemple, c'est intéressant parce que c'est sous culture. Et comme ce livre était publié en 1976-17 au Royaume-Uni, dans les milieux des années 70. Et il y avait un contexte de production très particulier. Hein. C'était dans une tradition très, très cultural studies, d'études des groupes dominés par l'approche de class, race, tous ces termes qui sont vraiment au cœur des cultural studies. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai été appelée à examiner une thèse il y a quelques années, peu après la traduction de textes de Ebditch. Donc, examiner une thèse en France sur les sous-cultures. Et je trouvais ça un peu hallucinant. Et c'est pas un reproche que je pouvais faire à la jeune personne qui présentait sa thèse parce qu'elle ne parlait que français. Qu'il y a tout un pan de littérature qui s'est développé sur cette recherche, qui a évolué, des discussions, des débats qui ont monté et qui n'ont pas eu d'écho, qui n'ont pas eu de... Donc il y a des recherches, ça c'est le problème toujours en milieu universitaire, des discussions parallèles qui peuvent se répliquer, qui peuvent refaire des travaux. Et il y a un manque de dialogue principalement parce qu'il y a un problème de traduction et que la langue qui domine l'économie universitaire et la langue anglaise. Donc, ça, c'est une autre histoire. Hein. Ça, c'est le côté un peu... Donc, voilà, après, il y a Elizabeth Wilson, of course, bien sûr, son livre Adorned in Dreams. Il n'a pas été traduit. Donc, ça, c'est vraiment dommage, comme beaucoup. Donc, voilà, je vous donne Lou Taylor, histoire de la mode. Diana Crane, qui est aux États-Unis, qui a un livre absolument génial. Donc, tous ces livres sont absolument super. Ce sont des gens... et donc, Valérie Steele, évidemment, je suis sûre que vous connaissez tous et qui, je reparlerai d'un moment clé qui est le Fashion Theory, quand il a été créé. En Nouvelle-Zélande, Australie, elle est en Nouvelle-Zélande maintenant, Jennifer Craig, Angela McRobbie, qui a une approche peut-être plus, qui commençait avec cultural studies, mais qui est plus sociologique et qui s'intéresse beaucoup aussi à l'économie culturelle de la mode. Donc voilà, j'oublie énormément de monde. Il y a énormément, énormément, énormément de choses. Simplement, je pense toujours, quand j'ai des visiteurs de France, et je suis vraiment ravie si quelqu'un de vous vient à LCF, de vous emmener près des... dans ma fac, où il y a la bibliothèque, les étagères qui sont fashion studies. Il y en a. Et des travaux qui sont vraiment très riches, historiques, présents. Et je pense que c'est ça peut-être une approche, peut-être, hein, je vous connaissez mieux que moi, qui est différente des French Studies et qui emprunte beaucoup aux Cultural Studies. C'est qu'une approche de la mode qui n'est pas une approche du vêtement, honorée par la distance historique, hein, c'est une approche des pratiques vestimentaires maintenant. Pratique quotidienne, c'est pas la haute couture, c'est vraiment le présent. Donc là aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, est intéressant et qui devrait être encouragé, je pense, dans les études en France. Ce qui m'amène à ma prochaine slide. Donc les approches, j'essayais de penser un peu aux, il y a différentes façons effectivement de penser aux approches qui ont été faites, qui informent les fashion studies. Et puis en fait, je me suis retrouvée à séparer ça en quatre sections. Peut-être c'est l'influence des cultural studies, mais je pense que c'est aussi quatre sections qui sont à la base de l'approche cultural studies. C'est-à-dire que beaucoup de travaux en fashion studies comme en cultural studies sont des travaux en termes de représentation. La représentation. Donc là, je pense aux travaux qui s'occupent, qui s'intéressent aux images, aux textes, pris au sens vraiment très, très général, très cultural studies du terme, hein, c'est pas seulement les mots écrits, mais aussi les images de publicité, les films, etc., même le corps, en quelque sorte. Donc là, c'est vraiment des études, et qui, effectivement, ont utilisé, pour lesquelles donc, le travail de Roland Barthes, par exemple, a été vraiment clé, hein, une approche sémiotique de la mode, mais qui, en fait, n'est plus vraiment pratiquée, hein, plus personne ne fait de sémiotique. Les Italiens, les Français aiment beaucoup la sémiotique toujours, hein. Mais bon, ça a informé des textes très 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 importants pour comprendre les images de mode. Et là aussi, ça ramène à un point que je précisais avant. Donc, la mode ici, comprise, en tout cas dans Fashion Studies, d'une façon très 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 générale, c'est la mode comme système de production, de consommation, de distribution, la mode matérielle. C'est s'intéresser aux agents, aux consommateurs, aux textes. On pourrait utiliser le mot de la tour, aux actants, hein. Ça peut être des objets, ça peut être des, ça peut être, donc c'est vraiment vaste. Et c'est ce pourquoi ça draine énormément de disciplines. Hein. Donc c'est pas seulement une étude matérielle ou une étude des images. Ça peut nous mener à loin. Et c'est ça qui, à mon avis, est fabuleux dans la possibilité d'avoir la mode comme champ d'étude. Donc les études de représentation, les études de production, production de la mode et là, je dirais que peut-être, sont peut-être sous-représentés en ce qui concerne les fashion studies. Il y a énormément d'études de la représentation, beaucoup d'études de la consommation. Hein. C'est comme avec les cultural studies, les années 50, 60 en cultural studies, beaucoup d'analyse du texte, analyse sémiotique. Et puis après, les années 70, vous connaissez Stuart Hall et tout ça, Morley. Ils ont dit, bon, il faut qu'on s'éloigne du texte. Et plutôt que d'imaginer que le texte s'impose au lecteur, on va voir comment les lecteurs répondent, s'engagent, quel sens ils donnent au texte. C'est un peu la même chose aussi en études, avec l'étude de la mode. Il y a eu beaucoup d'études, notamment en anthropologie, de la façon dont les gens consomment la mode, consomment le vêtement. Et là, peut-être en sociologie, je pense, je l'ai présenté un peu plus tôt, Joan Entwistle, qui a fait des approches comme cela. J'imagine qu'il y en a, j'oublie énormément, excusez-moi. Mais donc là, c'était un peu, voilà, cette étude, on s'éloigne du texte pour voir un peu pourquoi les gens consomment la mode, comment. Et évidemment, un thème peut-être clé, principal, qui revient toujours dans la fashion study, c'est la notion d'identité, la formation des identités, de race, d'ethnicité, de sexe, de nation, de genre, etc., qui reviennent toujours très souvent dans les fashion studies. Donc, moi, je trouve qu'il pourrait y avoir plus d'études de la production de la mode dans le sens cultural production. Des études comme, par exemple, le fait toujours Angela McRobbie, qui a sorti d'ailleurs un livre il y a quelques mois qui s'appelle Be Creative, où elle a fait une étude avec des collègues en Italie de l'émergence des quartiers de mode à Berlin, à Milan et en Angleterre. Et quelle économie de la mode se met en place qui peut permettre ou pas aux jeunes designers d'avoir du succès ou non. Donc ça, c'est vraiment une étude de l'économie culturelle, l'économie politique de la production de la mode. De même, je pense que peut-être ce qui manque un peu encore et que j'aimerais voir plus, j'aimerais bien savoir ce que Valérie pense, mais sur, par exemple, les acteurs de mode. Il y a quelques recherches sur les journalistes de mode. Il n'y a pas beaucoup de recherches. Donc, j'imagine des recherches. Hein, quelque chose informé de façon théorique et de façon méthodologique, mais sur les stylistes de mode, les coiffeurs, les relations publiques, tous ces gens qui sont là pour créer peut-être l'aspect symbolique de la mode. Sur les designers aussi, Angela en a fait, mais il y a peut-être moins. Donc je pense que là, c'est bien, hein, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, en tout cas dans les British, English, Anglo-Saxon Fashion Studies, serait bien à faire. Je sais qu'avec par exemple, avec des collègues et moi, on a commencé à travailler sur les blogueurs de mode et regarder les blogs de mode comme forme de travail. Travaille dans l'exploitation ou pas. Avec ma collègue Joanne Twissel, on va commencer à faire une recherche sur les stages dans l'industrie de la mode. Donc c'est ce genre un peu revenir sur... Oui, je vois évidemment là les visages un peu... Donc c'est un peu j'invite plus de recherche là-dessus, notamment parce que je fais un peu de la compétition là, mais parce que j'ai une revue universitaire. Donc, si vous avez des textes à soumettre, envoyez-moi un email, je serai très très heureuse de les lire. La distribution, c'est très proche de cette analyse de la production distribution de la mode. Je pense que là aussi, il pourrait y avoir plus d'études. Encore une fois, Joanne Twissel a fait une étude sur les acheteurs de mode, par exemple. Donc, pour voir un peu tous ces niveaux intermédiaires entre le designer, la représentation et la consommation. Donc, encore une fois, c'est repenser que dans le système de mode, il y a énormément de moments et que chaque moment peut être de façon très, très enrichissante d'un point de vue anthropologique, sociologique, cultural studies et autres, peut être étudié. Et encore une fois, c'est très certainement ce que j'essaye toujours de transmettre, en tout cas à mes étudiants à la fac, c'est que le but c'est d'étudier la mode, parce que bon, on est tous intéressés, on aime la mode, mais afin d'adresser des thèmes plus larges, le culturel, le social. Donc c'est voir la culture et la société à travers la mode, qui pour moi est la richesse des fashion studies. Donc pas rester peut-être dans le vêtement, là, je suis sûre que peut-être les material culture ou certains art historiens de l'art seraient en désaccord, mais je pense que c'est rentrer dans ce phénomène pour en ressortir et s'adresser à des phénomènes plus généraux. Et la consommation, encore une fois, pareil, vous trouverez énormément de textes publiés, aussi bien dans la revue universitaire Fashion Theory qu'en livre, sur le pourquoi, le comment de la consommation du vêtement ou de la mode par les hommes, par les femmes. J'ai pas mentionné un collègue qui s'appelle Sean Cole, qui a quelques années fait un livre assez clé qui s'appelle Don't We Know Our Gay Apparel, qui est un peu un long titre, mais qui s'occupe de l'homosexualité et de la consommation du vêtement, Queer Studies et consommation du vêtement. Donc c'est vraiment très riche. Donc je vais très vite, j'oublie beaucoup de choses, on peut en reparler après pendant la discussion. Méthodologie. Et à ce titre, d'ailleurs, il y avait une très 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 bon numéro spécial de Fashion Theory il y a plusieurs années. Sur la méthodologie, penser de quelle façon, et si d'ailleurs, et c'est pas sûr, hein, si d'ailleurs les fashion studies ont besoin d'une méthodologie, ou quelle méthodologie pourrait-il y avoir, qu'est-ce que ça veut dire, je pense que si on vient de la sociologie, il y a plein de méthodologies qui peuvent être utilisées, hein, mais je pense que ce qui est certain, c'est qu'il faut encourager une rigueur scientifique, une rigueur intellectuelle, universitaire dans la recherche de la mode, et dans ce sens, ça veut dire s'assurer que il y a une méthodologie qui peut être plus ou moins articulée dans des publications, mais qui devrait être présente. Donc encore une fois, ici, je vous encourage beaucoup, et très certainement si vous m'envoyez un article, à articuler et parler tout haut de la méthodologie que vous employez pour faire votre recherche. Moi, tous les chapitres dans les livres, dans les thèses sur la méthodologie sont toujours très très intéressants, parce que c'est le comment vous allez trouver votre information pour en revenir à Olivier. C'est intéressant, donc comment, quelles archives il va utiliser, quel texte, de quelle année, comment il va faire son travail d'enquête. Et pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Et encore une fois, peut-être, un des problèmes des fashion studies, comme un des problèmes peut-être des cultural studies, en tout cas, c'est ce que les sociologues disent aux cultural studies. En Royaume-Uni, ils se détestent. Hein. Enfin, les sociologues n'aiment pas les cultural studies. C'est pas vrai, c'est facile, un peu. Mais bon, un peu. C'est le manque de rigueur méthodologique chez les cultural studies, qui des fois un peu, c'est... On parle de tout, de rien, ça peut être très très bien, ça peut être très stimulant, mais des fois c'est un peu, mais quelle est l'évidence, sur quoi tu te bases, et comment tu en es arrivé à faire ce genre de déduction. Je sais qu'il y a plein de gens dans la salle qui sont en désaccord avec ce genre d'observation, mais bon. Donc les méthodologies qui ont informé, évidemment les méthodologies qui ont informé les fashion studies sont aussi vastes que les disciplines qui ont nourri les fashion studies. Hein, c'est les disciplines, les méthodologies de la sociologie, hein, c'est l'interview, l'observation, ça peut être l'ethnographie, ça peut être l'analyse de texte, hein, j'appelle ça, c'est en venant de l'anglais « textual analysis ». C'est un peu tout et rien, donc ça peut être un peu une emprunté à la sémiotique, à l'analyse de discours, à l'analyse de conversation. Évidemment, les archives, hein, l'utilisation des archives, ce qui n'est pas vraiment une méthodologie, mais enfin bon, les historiens en parleront beaucoup mieux que moi, je suis sûre, ma collègue après moi. Mais donc, encore une fois, je pense que pour, notamment peut-être aussi, parce qu'il y a, toujours un statut de légitimation, je sais, en tout cas, probablement beaucoup moins en Angleterre qu'en France, d'études de la mode, hein, comme objet universitaire. Je pense que cette légitimation passe aussi par une énorme rigueur théorique, mais également méthodologique, empirique, pour montrer que c'est pas juste la mode. Hein. Mais ça, heureusement, je pense que maintenant, en Angleterre, on est passé au-delà, et les fashion studies marchent très très bien. Ce qui m'amène à ma dernière slide, qui aussi pour moi, c'est là que je pense toujours, ça pourrait être intéressant, ou en tout cas ça pourrait peut-être l'intéresser que moi, mais de faire une analyse bourdieuienne de la formation des fashion studies comme champ, et donc tous les processus de légitimation hein, des fashion studies, parce qu'effectivement il y a énormément maintenant, en tout cas en anglais américain, hein, d'institutions qui sont là pour supporter, légitimer et produire et reproduire, donc là j'ai vraiment le langage bourdieuien, les fashion studies. Donc je pense à des revues universitaires, évidemment celle de Fashion Theory, que vous devez tout connaître, qui était créée en 1900, non qu'elle est plus là, j'ai un peu moins honte d'oublier, 1991 80. Ah d'accord, ok. Ça paraît très loin et en même temps c'est pas si loin que ça. Donc Fashion Theory, que vous devez tous regarder, qui est vraiment qui a été essentiel, hein, et qui est toujours essentiel pour présenter les recherches sur la mode. Il y a beaucoup de revues universitaires maintenant sur la mode. Évidemment j'ai mis la mienne, hein, côté celle de Fashion Theory pour avoir les good vibes, qu'on a lancé il y a 4 ans, 5 ans. Et là, peut-être, je vais pas élaborer trop, hein, mais l'idée, c'était d'internationaliser, de décentraliser un peu les études de mode pour essayer de permettre aux gens qui n'écrivent pas en anglais, il y en a beaucoup, d'avoir un accès plus facile aux journaux, aux revues universitaires. Et donc, ce que nous faisons, qui est assez unique dans ce journal et qui est assez difficile, je dois admettre, mais pour l'instant, ça marche, c'est que nous proposons aux auteurs de nous envoyer leur article dans la langue avec laquelle ils veulent écrire. Donc, on a eu du russe, on a eu de l'hébreu, on a eu de l'espagnol, de l'allemand, et on évalue, hein, on fait des lectures de textes en langue universitaire, dans leur langue. Donc il faut qu'on ait un énorme réseau d'universitaires à travers le monde qui peuvent avoir la langue dans laquelle l'article a été écrit. Et donc ça permet de dire déjà, ben voilà, vous pourrez être traduit ou pas. Ou quand vous serez traduit, on vous garantit de publier votre article. Donc ça a donné des choses très intéressantes, je pense. Donc voilà, revue universitaire, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a une maison d'édition anglaise qui s'appelle Intellect. Et ils ont, ce qui me fait un peu peur d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'on se phagocyte un peu tous, ils ont lancé plein de revues sur la mode. Donc il y en a une qui s'appelle Fashion, Film and Consumption. Il y en a un qui s'appelle Men's Fashion Studies ou Queer Fashion Studies, donc ça devient très segmenté. Mais bon, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de revues universitaires. J'ai des collègues aussi à Toronto, Ryerson University, qui viennent de lancer. Je vous encourage vraiment hautement d'aller voir leur revue, même si ça fait beaucoup de ça va m'enlever des articles pour ma propre revue, mais ça s'appelle Fashion Studies. Et c'est une publication sur Internet et qui s'appelle Open Access. Je ne sais pas comment on dit en français. Open Access, ah ben voilà, c'est facile. Donc là aussi, qui est vraiment très riche. Et là aussi, ils font quelque chose qui m'intéresse bien.
Ça publie en anglais.
Ah oui, voilà, parce que c'est Canada. Donc, mais envoyez-nous vos textes d'abord. Mais ils sont vraiment super. Et aussi, pour ouvrir un peu ce que l'on dit par Fashion Studies, c'est aussi s'intéresser un peu à ce qu'on appelle la pratique. Les gens qui approchent le vêtement non pas par l'écriture peut-être, mais aussi par le design, mais qui ont quand même un discours critique sur leur pratique. Et donc là, la plateforme va essayer de aussi non pas simplement de publier des articles, l'article universitaire, mais du travail visuel aussi, des images, etc. Donc plein de bonnes choses qui peuvent arriver. Les maisons d'édition, vous les connaissez, la plus connue c'est Bloomsbury, qui était avant Berg. Il y a IB Taurus aussi, et puis évidemment, mais qui ont un peu un monopole hein, sur la publication sur la mode. Les cours, et ça je trouve ça très intéressant, les cours sur les fashion studies, et ça vraiment c'est clair, au cours des dernières années, il y a eu une espèce d'inflation de cours sur les fashion studies. Bon, je suis à LCF, au Central Saint Martin, il y a des masters en fashion studies, il y a des BA en fashion studies. Tous nos étudiants, qu'ils étudient le marketing ou le design ou le make-up artist, doivent faire fashion studies, donc approche socio-cultural studies de la mode. Ça commence aussi, c'est bizarre parce que Valérie a été vraiment très importante pour la création des fashion studies aux États-Unis, mais c'est vraiment que les quelques dernières années que ça commence à se consolider. FIT, où elle est basée, il n'y a pas de master's MA en fashion studies. Mais Parsons, par exemple, font énormément de choses. Et aussi, maintenant que Parsons est à Paris, avec un collègue, hein, Marco, sont assez, c'est bien. Hein. C'est intéressant que ce ne sont pas des Français qui fassent ça, d'ailleurs. Marco, oui, il est là, voilà. Ah ouais, je fais de la pub. Hein. Mais donc voilà, qui lance aussi cette approche très cultural studies, fashion studies de la mode en France, donc c'est super bien. Donc Parsons, je regardais ma note, je sais qu'au Brésil, par exemple, il y a aussi pas mal de gens qui commencent à lancer les fashion studies au Brésil avec des cours, une revue universitaire qui a été lancée quelques années qui s'appelle Dobras, qui fait aussi des études. Donc, j'étais en Colombie la semaine dernière et il y a un désir, une ouverture sur les fashion studies énorme aussi. Donc ça, c'était très intéressant de parler à des collègues universitaires. Donc voilà, ça n'arrête pas. Je vais l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, on est quand là? Oui, l'année prochaine, pour un mois à Sapienza, à Rome, parce qu'ils viennent de lancer un MA Fashion Studies. Alors c'est en anglais aussi, hein, mais donc voilà. Donc ça, ce qui, pour maintenant revenir peut-être aussi au livre que ma collègue et moi avons sorti il y a un an, ce livre vend énormément. J'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais faire un petit peu d'argent avec un livre universitaire, mais il a été déjà réimprimé. Il est en train de se faire traduire en chinois, en serbo-croate, en espagnol. Et c'est assez intéressant parce que c'est quand même de la théorie, hein. C'est pas bon, il est facile, hein. C'est facile. Mais bon, c'est vraiment. Donc voilà, ça. Je pense qu'il y a un avenir.
C'est devenu indispensable pour.
Merci.
Ce que ce livre fait extrêmement bien, c'est un chapitre sur chaque théoricien, et les auteurs essaient d'avoir des exemples extrêmement concrets et de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la théorie avec un exemple extrêmement concret pour justement aller utiliser la notion beaucoup plus profondément que ce qu'on a l'habitude de faire juste en jetant le nom du théoricien comme ça. Et donc c'est extrêmement facile à comprendre. Donc, moi, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris avec ces
Ah, c'est génial. Ouais. Mais ce livre vient de, précisément, c'est-à-dire, ça remonte à plusieurs années. Le projet, c'est que là où j'enseignais, où j'enseigne toujours, mais moins, à LCF, j'enseignais des cours de sociologie et cultural studies, justement, à des masters, mais de journalisme, performance, ça venait un peu partout. Et je me disais, comment transmettre un peu les cultural studies. Et je m'étais dit, bon, chaque semaine, je vais faire un cours sur Veblen, et comment Veblen a parlé de la mode, Zimmel, ou d'autres qui peut-être n'ont pas parlé de la mode, mais comment on peut les utiliser pour parler de la mode. Et donc, les étudiants trouvaient ça très, 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 très pratique, hein, de donner des outils théoriques pour essayer de comprendre ou de mettre en conception ce qui se passe, hein, dans le champ de la mode. Et donc, voilà, c'est devenu le livre, parce que c'est les étudiants eux-mêmes qui disaient que ce serait pratique.
C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de termes aussi en français dans le livre.
Ouais.
Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est fascinant.
Est-il traduit en français?
Non.
Ça, c'est les éditeurs français. Hein, on a. Hein?
Oh,
ouais, c'est.
Voilà, genre, c'est les étrangers qui parlent mieux des théoriciens français que.
On a essayé, ma maison d'édition a essayé. C'est du boulot, les éditeurs français. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, enfin, il y a une discussion qu'on avait eue aussi, je sais que c'est... Non, je vais pas en parler de ça, on en parlera plus tard. J'aimerais bien revenir sur un point que Farid avait fait sur le côté approprier un auteur pour étudier la mode. Et en fait... Oh non, c'est toute une autre discussion, je pourrais... je me lance dans un autre truc, là. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que... et oui, et des online platforms, comme on dit très en anglais, probablement peut-être en français maintenant. Donc je voulais juste... Là, c'est pas simplement de la pub, mais je sais qu'on a créé... Donc là, c'est une page Facebook. Quand on a lancé notre journal, notre revue universitaire, on s'était dit, il manque aussi une plateforme où on peut savoir ce qui se... toutes les conférences, les appels à contribution, parce que ça, c'est une autre chose. Il y a maintenant énormément de conférences sur la mode, autour de la mode, dans le monde entier, et de plus en plus. Et donc, il n'y avait pas de plateforme unique où on pouvait se rendre pour voir un peu ce qui se passait. Donc, on a créé cette page Facebook juste pour promouvoir ce genre d'événement. Donc, c'est principalement, on publie les appels à contribution. Donc, si vous avez des informations sur des séminaires, des événements qui se passent sur le Fashion Studies, hein, faites-moi savoir, et puis on met ça régulièrement sur notre page Facebook. Et puis il y a aussi le projet très intéressant de Fashion Studies Journal, c'est qui sont, en fait, je sais, c'est Parsons, c'est ça, des étudiants de Parsons, tu connais peut-être un peu plus. Qui ont fait ça? Donc c'est une plateforme. Voilà, mais ça marche, je trouve ça très très bien, hein. C'est vraiment, et je trouve ce qu'ils font très bien, et c'est peut-être un nouveau mouvement qui se passe aussi, c'est que c'est un peu entre un discours plus facile, disons, plus ouvert, plus populaire, plus, je sais pas comment c'est, accessible, voilà, et un discours universitaire, peut-être plus du côté universitaire que du, mais c'est une plateforme très facile d'accès et qui en fait aussi montre quel est l'intérêt de, ou tout l'intérêt qu'il peut y avoir à penser en fait la mode, encore en une façon générale la mode. Il y en a plein, il y en avait une qui vient de boucler, qui s'appelait Worn Through, qui était vraiment très très bien. Donc voilà, ça arrive, ça se passe. Voilà. J'arrête. <C'est... rire>
Si vous avez des questions très précises à Elias, on va faire ça, mais on va aussi, après qu'Isabelle va parler, je pense que vos deux vont faire un très bon moyen de dialogue pour ouvrir des questions plus largement. Donc maintenant, c'est vraiment très précis.
Ok.
Et ensuite, on va faire... C'est pour la vidéo.
Fort, vous
non, mais
il
faut parler fort dans le truc.
Dans le micro, très bien. Oui. Merci beaucoup. Agnès, je pense être un peu un cas d'étude pour vous, parce que je suis seigneur d'ici.
Pardon. Ouais. Mais vous êtes italien. Ah, bah voilà. Vous êtes italien en France, vous pouvez être que cémoticien.
J'apprends pour dire qu'il y a deux programmes très intéressants à l'Italie de Fashion Studies à l'Université de Bologne.
D'accord.
En italien et en anglais.
Ouais.
Dalla Piazza Firenze avec Isabelle Adetti.
Ah oui, oui, d'accord.
Une collègue scène officielle.
Ouais, aussi, ouais.
C'est effectivement tout à
remplir. Ouais. Et à Lyon aussi, je sais qu'à l'université de Lyon, j'ai quelques collègues qui avaient fait.
Absolument. Et en ce moment, je suis moi-même en train d'écrire un programme en Fashion Studies en langue française, mais qui se fera à Montréal. Pour une fois, on ne veut pas en France et à Paris en particulier. Donc c'est très difficile. C'est difficile d'avoir tout un programme, je pense, en français, on est tous sur la mode.
C'est dingue, hein, c'est vraiment
et
dingue.
C'est le même problème qui se répercute sur l'édition et
ça, c'est les mêmes dynamiques et les mêmes points de vue. Mais c'est dû à la culture, à l'histoire.
Oui, ouais, là, il y a vraiment une culture.
Mais ma question précise était, pour ne pas trop prendre de temps sur l'autre intervention, pardon déjà. Vous ne pensez pas que s'il y a énormément de publications et si on fait énormément de choses dans ce domaine qui est génialissime, il y a des choses vraiment très belles, c'est justement parce qu'on ne revendique pas de méthodologie précise et que tout est incluable, entre guillemets, oui, oui. A priori.
Oui, non, mais là, je suis d'accord. En fait, c'était plus... je ne pense pas que les fashion studies réclament vraiment... Je sais qu'il y a certaines personnes, certains gens de fashion studies qui ont dit qu'il faudrait peut-être qu'on vienne avec... établir une propre méthodologie. Je pense que ce que je voulais dire ici, c'est que un travail universitaire, bon, c'est peut-être la sociologue un peu hardcore qui parle là, mais je pense qu'un travail universitaire scientifique, entre guillemets, qui doit quelque part être rigoureux, et que la façon d'être rigoureux, c'est aussi par la théorie et par la méthodologie.
Absolument.
Mais sans forcément se réclamer, je suis complètement d'accord, si on fait... C'est ça qui est bien avec Fashion Studies. Et moi, je suis la première à avoir fait du textual analysis, du interviews, des archives. Donc, et c'est ça qui est très bien, comme avec Coach Studies, c'est pouvoir emprunter et bricoler, comme le disait Olivier, plusieurs méthodes.
Absolument. Je pensais justement à Subcultures de Decade Bitch que vous avez utilisé pour ouvrir justement la présentation. Il y a un chapitre qui est génial, un des derniers chapitres sur le style comme écriture où il emprunte à la sémiotique une méthode d'analyse et de lecture.
Ouais.
Et c'est génial de voir à quel point la rigueur donne de la valeur au texte et à la pensée. Il arrive à démontrer que la juxtaposition des mesures dans la musique, punk, ska, etc., est reproduite par les asymétries, les déséquilibres et les juxtapositions des pièces et même la manière d'accrocher les pins vestes des punks et des rockabillys à Londres se reproduisent dans la musique en termes de style, d'où le fait que le style soit l'expression d'une posture philosophique, sociale, humaine, identitaire, etc., etc. Mais c'est la méthode qui le montre. Parce que l'intuition, c'est très bien, mais l'intuition...
Mais j'aimerais bien savoir, si on peut continuer après, mais par exemple, depuis Hebdi, Jamakone, il n'y a pas eu beaucoup de travaux en anglais qui ont utilisé la sémiotique.
Non,
je sais qu'il y en a beaucoup qui se font en français et en italien, mais qui ne vont pas. Et je trouve ça, ce serait par exemple très bien peut-être de voir dans quelle mesure la sémiotique est toujours valable, peut toujours être utilisée pour dire des choses vraiment bien. Parce qu'effectivement, comme vous dites, le travail de Dick Hebdige et son utilisation de la sémiotique pour regarder les sous-cultures, c'est absolument génial. Mais c'est dommage, il s'est... En tout cas, à ma connaissance et en anglais, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de choses après.
Il est traduit en italien.
Ouais, j'imagine.